France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Eh bien bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Merci de venir sur France Inter, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Est-ce que les dernières mesures du gouvernement sur les priorités de vaccination ont répondu à vos inquiétudes sur le retard pris en France?
C'est l'avenir qui le dira. Parce que pour l'instant, le retard est évident. Et après, on peut le masquer sur ce qu'on veut, mais...
C'est le cas de le dire.
Ouais, c'est le cas de le dire.
Nous avons tous des masques.
En gros, je regardais ce matin, on est au 15e rang mondial, à peu près, en termes de nombre de vaccinations. On est à 80 000, les Allemands sont à 476 000. C'est difficile à comprendre, ce retard à l'allumage. Alors, c'est d'autant plus difficile à comprendre que si ce gouvernement avait eu tout bon depuis le début... on serait là, on se dirait, bon, il y a peut-être effectivement eu un problème, ils ont peut-être raison, etc.
Mais vous voulez dire que l'histoire des masques colle aux chaussures comme un sparadrap?
Il y a les masques, c'est le plus évident, c'est-à-dire, il faut pas de masques, parce qu'on n'en avait pas, en fait, puis après, oui, il faut des masques tous les jours, bon, mais les tests, je vous rappelle aussi, hein, les tests en avril, Édouard Philippe annonce 700 000 tests pour le 1er mai, en juillet, on en est à 350 000, Véran nous dit, ah, mais en fait, on peut en faire 700 000, mais c'est parce qu'on veut pas en faire 700 000. Et on pourrait comme ça les additionner. Je prends un autre exemple qui pour moi est important, parce que je pense que c'est le centre d'une stratégie sanitaire en dehors de la question médicamenteuse de vaccin, l'isolement. Moi, j'ai eu le Covid. Je suis persuadé que il faut proposer des conditions matérielles aux gens pour s'isoler.
C'est-à-dire
que quand vous êtes malade, on vous appelle, on vous propose, comme ça avait été dit, une chambre d'hôtel, quelque chose. On réquisitionne les hôtels, mais on le fait. Ceux qui s'en sortent le mieux en Asie, sans même que ça soit contraint, c'est ce qu'ils ont fait. L'isolement, il y a aucune stratégie. On nous dit, on le fait, mais ça fait des mois que c'est pas mis en place. Donc c'est pour ça qu'après, quand on aborde le vaccin, on entend les excuses. Et on se dit, bon, il y a des trucs bizarres. Alors, moi, je pense que ça manque de transparence. Et puis, c'est aussi à force de détruire l'État, d'affaiblir la santé publique. On se retrouve avec un ministère de la Santé qui demande au cabinet McKinsey, à 2 millions d'euros par mois, américains, d'organiser la gestion des vaccins.
Il explique ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, il explique qu'effectivement, il fallait bien faire des études pour voir ce qui se passait à l'étranger pour mieux travailler en France.
Mais je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, le documentariste Moore aux États-Unis expliquait que le système santé français, c'était le meilleur au monde. D'accord. Et voilà où on en est à force d'années de politique d'austérité sur la santé.
L'exécutif Macron n'est pas seul responsable des problèmes.
Je vous ai dit d'années.
Mais qu'est-ce qui vous choque le plus au fond? C'est le manque précisément de prévoyance ou c'est la non-vérité pour ne pas...
Les deux, parce que j'ai l'impression que la désorganisation, l'improvisation, le fait aussi toujours que on est toujours à la traîne, toujours à la ramasse. Je veux dire.
Enfin, si on avait vacciné plus vite, est-ce qu'on ne serait pas comme en Allemagne, en saturation de vaccins actuellement?
J'en sais rien. Mais là, dire que là, on en est loin. Hein. Il n'y a pas de problème, 80 000. Mais ce n'est pas seulement la question des vaccins. On va reparler peut-être des vaccins après. Bon, les vaccins, c'est le centre de la stratégie à venir. Ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut passer par le vaccin. Mais on voit bien, notamment avec ce qui se passe en Angleterre, que c'est pas pour autant qu'on va en finir d'un coup avec cette épidémie. Donc, il faut prendre des mesures. On peut pas passer, par exemple, de confinement en confinement. On sait pas très bien ce que fait le gouvernement. Alors, il impose des couvre-feux stupides, parce que tout le monde constate, il suffit de circuler pour voir que quand vous faites un couvre-feu à 20h, vous concentrez tout le monde de 19 à 20h dans les magasins, les transports, ce qui est exactement l'inverse du but recherché.
Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des chiffres d'études sur les impacts couvre-feu dès 18h sur la santé.
Enfin,
Ce qu'il faudrait faire, c'est que depuis le début, nous on le demande, il faudrait une vraie planification de la société. Par exemple, organiser la société en rotation. Alors c'est vrai que ça nécessite du travail, mais plus on prend du retard, moins on le fait, pour que les gens ne partent pas tous en même temps au travail. N'est pas tous en même temps les activités. L'isolement, j'en ai parlé tout à l'heure, une vraie stratégie d'isolement avec des conditions matérielles. Le dédoublement de toutes les classes. Y compris avec des réquisitions de locaux vides. Enfin, une vraie planification de la société.
Et ça, c'est pas fait. Il y a assez d'enseignants aussi.
Ben voilà. Et c'est bien pour ça, figurez-vous, que, on a demandé depuis longtemps, nous, vu qu'en plus le chômage va les frapper, qu'on crée 300 000 emplois jeunes, d'accord, payés au SMIC pendant 5 ans, qui pourraient être, envoyés justement sur les questions sanitaires, d'éducation, non pas pour faire école. Et par exemple, si on imagine une classe dédoublée, la moitié de la classe à court, puis l'autre moitié fait du travail dirigé, par exemple, avec des gens qui sont qui ont peut-être pas la même formation, mais qui sont capables de le suivre. Mais tout ça, c'est une question d'organisation de la société. Non, c'est pas ce qui se passe partout. Il n'y a pas de dédoublement automatique. Je vous assure que c'est pas le cas.
Pas automatique, effectivement. Comment est-ce que vous recevez le sort de mea culpa du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui reconnaît finalement que le gouvernement a peut-être été un peu trop prudent dans la stratégie vaccinale. Est-ce que ça vaut à vos oreilles?
Bah, ça vaut mes oreilles, mais ça m'inquiète aussi, quoi. Il faut savoir qu'en tant que parlementaire, on passe notre temps depuis des mois à l'Assemblée à avoir un gouvernement. Aussitôt qu'on remet un peu en question les mesures annoncées, non pas pour tout est mal, mais peut-être qu'on pourrait faire différemment. On nous dit, ah mais attention, vous ne votez pas assez vite, donc vous êtes co-responsable du Covid, de vos grands-parents qui vont mourir, etc. On nous a tout fait. Et puis un mois après, on apprend, ou même des fois une semaine, on apprend qu'il va faire l'inverse de ce qu'il a décidé, parce qu'effectivement, il allait dans le mur.
Donc, je l'ai dit au Parlement, l'office parlementaire OPEXT, hein, qui réunit des députés, des sénateurs de tous bords, mais qui reste tout de même dans l'opposition, majoritairement, cet office valide finalement la stratégie du gouvernement dans cette crise. Est-ce que ça ne réhabilite pas un peu l'exécutif?
Bon, écoutez, j'ai pas suivi ça. C'est un OPEC, c'est ça?
Oui, un OPEC.
C'est bien, on nous invente des trucs à chaque
coup. Oui, parce que... Bah, vous êtes parlementaire, vous
devez
connaître un peu ces
histoires. Non, je connais pas tout. Des fois, ils inventent des choses à la vitesse de l'éclair et qui durent le temps de
une semaine. La question de fond, c'est que quand on manie la santé, est-ce qu'il n'y a pas de la prudence à avoir d'abord? On peut dire tout de suite après, mais ça ne va pas assez vite.
Non,
que la prudence ne vaut pas?
Non, attendez, sur le vaccin, c'est pas la prudence que j'impute, d'accord? Je pense que... on sait qu'on a été très vite sur ces vaccins de nouvelle génération qui posent des problèmes, notamment un problème quand même majeur pour un vaccin, c'est qu'on ne sait pas si ça empêche la transmission. Bon, ils le disent.
On
ne sait pas combien de temps ça court. Donc, plus quelques problèmes que révèlent certains scientifiques qu'il faut suivre. Donc, moi, c'est pas la prudence. C'est l'impression que la prudence a bon dos. C'est-à-dire qu'on a aussi un problème d'organisation de l'État, d'organisation de la santé publique, et qui, je vous le dis, porte ce gouvernement à une co-responsabilité avec les gouvernements précédents, parce qu'à force d'affaiblir l'État, bah, le jour où vous avez besoin de l'État, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton, ça ne vient pas d'un claquement de doigts. Et je pense que c'est de cela dont on souffre.
Mais là, vous visez l'administration.
Je vise pas ce... Non, c'est pas l'administration. C'est que quand vous supprimez un fonctionnaire sur deux en permanence qui part à la retraite depuis des années, quand vous baissez les budgets de la santé publique, et vous savez qu'on le fait encore, on l'a encore fait dans la loi de finances de la sécurité sociale cette année, on a baissé d'1 milliard les dépenses structurelles, qui fait qu'on va continuer à supprimer des lits. Le grand hôpital Paris-Nord, dans ma circonscription à Saint-Ouen, prévoit de supprimer Beaujon et Bichat, les deux autres hôpitaux, dont Bichat qui a été à la pointe, avec 300 lits en moins au moment. Enfin, ce genre d'aberration, il continue en réalité à la produire, et c'est ce qui nous a mis dans le mur. C'est la situation que nous sommes, et ça, au moins, il devrait l'admettre, de façon à ce que, bah, peut-être qu'on regarde un peu plus avec transparence les choses. Et je dis, pourquoi la transparence est importante? Parce que dans le vaccin, la confiance des gens est importante.
Voilà. Vous avez confiance, vous, dans les vaccins qui vont venir?
Bah, très franchement, c'est toujours une question gênante, parce que après, on va nous accuser de... Bon, moi, je suis pour le vaccin, d'accord? Que ce soit clair.
Vous vous faites vacciner?
Moi, j'ai eu le Covid. Donc, on m'explique que quand vous avez eu le Covid, il paraît. Alors, un jour, on me dit que c'est pas. Un jour, les mêmes me disent.
Non, mais dans le monde, on avance en tâtonnant. Bon, les
moi, je pense
aussi.
Que là, il faut que ça soit que le vaccin actuel soit pour les personnes prioritaires, d'accord. Qu'on fournisse le nombre nécessaire et qu'on continue à rechercher deux autres voies. Les autres vaccins traditionnels, ils existent. Celui de Sanofi Pasteur est une technique plus traditionnelle. Les Chinois, alors on me dit à chaque fois. L'autre fois. On me dit, ah oui, mais les Chinois, vous aimez bien parce que c'est un état communiste. Non, c'est pas le clair. Ils ont fait un vaccin classique, donc ça serait quand même, ça vaudrait le coup de regarder. Et puis, je suis aussi pour qu'on regarde la voie médicamenteuse. C'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que le virus soit moins grave. À Lille, il y a un institut Pasteur, il y a une start-up qui a travaillé là-dessus. Il lui faut 4 à 5 mois de développement. Elle n'arrive pas à trouver un financement de l'État. Je pense qu'il faut être capable d'avoir une vision globale. Et pour l'instant, je trouve qu'on est toujours avec un temps de retard au niveau de ce gouvernement.
Et global, peut-être aussi au niveau de l'Europe, dans l'achat des médicaments pour 400 millions d'Européens.
Oui, mais vous remarquerez là aussi, c'est que l'Europe, mais l'Allemagne s'en tire mieux. Alors pourquoi l'Allemagne s'en tire mieux? Est-ce que c'est parce que le laboratoire est allemand? Moi, je pose la question. Ça pose aussi la question de l'indépendance française, non pas de se garder les vaccins pour nous. Mais là aussi, je pense que la recherche publique française a été tellement attaquée que peut-être que ça explique aussi le retard qu'on a.
Allez, l'actualité à l'étranger, c'était aux États-Unis cette nuit. Donald Trump, définitivement banni de Twitter pour cause de risque d'incitation à la violence. Alors, le président sortant dénonce de son côté une atteinte à la liberté d'expression si chère aux États-Unis. Est-ce qu'il y a effectivement un débat ce matin sur la liberté d'expression de Donald Trump?
Bah pour moi, c'est pas la liberté d'expression, parce qu'il a appelé à un putsch d'extrême droite. Et en France, l'extrême droite, le suprématisme, le racisme, vous avez vu les logos que boraient certaines personnes, c'est pas une opinion, c'est un délire. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont une vision un peu plus, j'allais dire, libérale. Je sais pas si c'est libéral.
Non, mais ça rejoint quand même l'histoire du fascisme aux États-Unis. Hein, ce que vous disiez, vous avez dit que c'était des fascistes, qu'on a aussi dit que c'était une bande de voyous.
Voilà. Certains l'ont dit. Et donc, moi, je tiens à préciser, parce que même le président de la République, je n'ai entendu dans son allocution le soir, je n'ai entendu ni parler de Trump, ni parler d'extrême droite. On parle de danger pour la démocratie, alors on mélange tout. Bon, moi, je suis pour appeler un chat un chat. Bon, parce que l'extrême droite, juste une chose, l'extrême droite suprématiste, avec qui s'inspire du nazisme, non seulement Monsieur Donald Trump est un des leurs, d'accord, est un des leurs, il a retweeté, je sais pas combien de fois, les fameux Q, là, dont on parle depuis quelques temps, il a initié cette tentative de putsch, moi je pense que c'est une tentative de putsch, il a essayé de voir jusqu'où ça pouvait aller, bon, et donc à partir de là, c'est l'extrême droite, et c'est à dire parce que l'extrême droite est extrêmement dangereuse dans le monde, notamment en France, où on a tant de mal à dissoudre, par exemple, Génération Identitaire, tentative qui il y a pas longtemps a occupé une frontière, je vous le rappelle.
Tentative de coup d'État plutôt qu'insurrection.
Ah oui, oui, oui.
Avec
oui.
une complaisance, pour le moins, de certains policiers.
Ah bah, manifestement, oui. Et c'est bien pour ça. Je pense que Putsch a... excusez-moi, c'est un bon lapsus en parlant de Trump. A essayé de voir jusqu'où il pouvait aller, de voir quelle allait être la réaction. Vous savez, un Putsch, on le devient que lorsqu'il a réussi. Alors, évidemment, on ne sait pas. Mais il y a des dans l'histoire, il y a des coups d'État qui ont commencé de manière même plus... moins dure. Puis là, on apprend qu'il y avait quand même des gens qui avaient des armes dans cette
absolument.
Histoire.
Mais il y a eu des morts, d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit destitué, au moins pour le symbole?
Moi, je pense, oui. Oui, je pense, parce que ce qu'il essaye de voir, Trump, c'est une espèce de répétition, ce qu'il a fait là. C'est-à-dire jusqu'où il peut aller et continuer sa vie politique normale et se représenter à la présidence des États-Unis. Donc là, il essaie de voir. S'il ne se passe rien, bah, ce qui s'est passé, c'est-à-dire un appel à, ce qui est quand même aussi la caractéristique d'extrême droite, s'en prendre à un Parlement, sera passé finalement comme quelque chose, bon, un peu ennuyeux, mais pas au point de vous destituer. Donc moi, je pense qu'il faut le destituer.
Et il y a aussi peut-être, et vous allez sûrement hurler au micro ce matin, mais c'est aussi une question de rhétorique. Est-ce qu'il n'y a pas des précautions oratoires à prendre quand Jean-Luc Mélenchon invite ses troupes à chasser Macron? Alors, compte tenu de ce qui s'est passé, on sait bien qu'aujourd'hui, avec Internet, on craint peut-être que des gens passent à l'acte. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, chez un homme politique responsable, des précautions oratoires à prendre aujourd'hui?
Oui, mais en l'occurrence, on les prend. Je veux dire, nous, on a toujours dit que
quand vous dites chasser Macron, vous n'avez pas peur que quelqu'un le fasse vraiment?
Non, on parle politiquement. On parle du niveau électoral.
Le problème n'est pas de l'émetteur, mais du récepteur.
Ouais, enfin bon, d'accord, on peut dire qu'on...
Regardez ce qui s'est passé à Washington.
Le problème de Trump n'est pas là. Le problème de Trump, c'est qu'il a appelé à une marche sur un Parlement pour faire en sorte d'interrompre un processus de désignation. C'est pas la même chose que de dire j'appelle à battre les démocrates, ou j'appelle à chasser les démocrates du pouvoir. Non, faut pas comparer tout et tout, sinon on comprend plus rien. L'extrême droite, ça reste un danger pour le monde actuel, et je vous rappelle que dans le monde, le plus grand nombre d'attentats terroristes vient de l'extrême droite, d'accord? Contrairement à ce qu'on pourrait faire.
Ah, je ne sais pas, vous avez des chiffres.
Ici, en Allemagne, notamment, regardez, les dangers d'extrême droite très forts. Et là, on vient de voir quand même que, non seulement elle était dangereuse, elle pouvait prendre le pouvoir par les urnes, Bolsonaro, Trump, et puis après essayer de le garder par la force. Voilà. Bah, ça rappelle un peu ce qu'est ce danger dans la situation actuelle.
Allez, on retourne à l'actualité en France.
Je m'étonne que Emmanuel Macron ait pas jugé bon, et finalement aider un peu Trump et l'extrême droite en ne citant pas leur nom lors de son allocution. C'est peut-être les déjeuners avec madame la nièce de Le Pen, je sais pas.
Oh non, là vous exagérez. Là,
vous poussez le bouchon et vous en avez
conscience. Vous
en
avez conscience.
Pas avec mon masque, je suis en train de sourire en disant ça. Voilà. Non, mais c'est une question importante. Je trouve que pourquoi n'a-t-il pas pointé clairement le danger quand il prétend être lui-même le rempart à ça? Je trouve que ça vaut le coup de réfléchir.
Eh bien, c'est dit. Emmanuel Macron qui était hier sur la tombe de François Mitterrand à Jarnac en Charente pour le 25e anniversaire de sa mort. Jean-Luc Mélenchon estime qu'Emmanuel Macron n'avait pas sa place. C'était écœurant, a-t-il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, d'ailleurs?
Oui, parce qu'il y a un côté récupérateur de Macron. Le en même temps, ça va bien, quoi. Je veux dire, quand vous cassez absolument tous les acquis de ce que la gauche a gagné depuis plusieurs décennies, ou le Conseil national de la résistance, et que vous essayez quand même de vous placer sous les mannes de ceci, Je veux dire, c'est comme quand ici Jaurès à l'Assemblée, bon, je veux dire, ça va, quoi. Ils sont en train de casser les retraites, ils cassent la protection sociale, ils donnent des cadeaux mirifiques sans arrêt aux actionnaires, au point que là, il y a des entreprises qui sont en train d'organiser des plans de licenciement, tout en touchant de l'argent de l'État, et qui sont même pas capables d'agir par rapport à ça. C'est le gouvernement qui a le plus favorisé les riches depuis des années, mais d'un point de vue écœurant. Et donc, oui, je trouve que là, c'est déplacé. Ouais.
Enfin, cela dit, Emmanuel Macron a aussi rendu hommage récemment à Charles de Gaulle, oui, à Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. À chaque fois, vous pensez qu'il a récupéré un peu de leur image?
Ah, toujours, oui, il essaye souvent, oui.
Donc, il est quand même président de la République.
Oui. Mais oui, mais après, je ne le dis pas, mais là, vous remarquez que c'était pas quelque chose de solennel, c'était pas quelque chose d'officiel. Qu'il aille à des cérémonies officielles, j'ai rien à dire. Je veux dire pas. Là, je trouve qu'il choisit d'aller à des cérémonies qui ne le sont pas. Et oui, je pense qu'il y a un aspect récupérateur. Bon, maintenant, je pense que les Français ne sont pas dupes.
Récupérateur peut-être aussi sur le plan de l'engagement européen entre François Mitterrand et Emmanuel Macron. Ça peut être un point commun, peut-être?
Je sais pas.
Ou la faculté de faire oublier les autres partis politiques. Tiens,
moi, je suis pas là pour revoir le bilan de François Mitterrand, mais je pense que au moment où François Mitterrand pousse des feux la construction européenne, il n'a pas encore peut-être l'entièreté de la situation aujourd'hui et d'une Europe qui telle qu'elle est. C'est pas le projet européen que je conteste, mais l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. En être à ce point-là un partisan comme Emmanuel Macron sans la remettre en question, c'est en réalité favoriser le libre-échange, c'est favoriser le néolibéralisme, les politiques d'austérité, c'est ça la réalité.
Un mot sur la gauche en France. Pourquoi est-ce que la France insoumise ne parvient pas à unifier les forces de gauche en vue de 2022? D'abord, est-ce qu'elle en a envie, la France insoumise, de fédérer les forces de gauche?
Nous, on a envie de rassembler au maximum derrière un programme de rupture, parce qu'on pense que la situation est telle que, et la crise épidémique le révèle, c'est aussi une crise du néolibéralisme, il faut un programme de rupture. C'est ça qui peut nous permettre à la fois de gagner, et puis c'est nécessaire pour, j'allais dire, rompre avec les 30 ans de néolibéralisme qu'on vient de subir dans ce pays de manière plus ou moins forte. Bon, donc à partir de là, bien sûr qu'on veut avoir le maximum de personnes qui soutiennent ce programme. C'est pour ça que moi je vais m'occuper de cette question-là dans la campagne, c'est pour ça qu'on va rencontrer tous les partis de gauche, les associations, les syndicats, les collectifs, pour voir comment on peut, à partir du programme L'Avenir en Commun, en faire un programme commun.
Oui, c'en est un autre.
C'est la matinée lapsus, mais c'est pas mal comme lapsus, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il a au moins pendant un temps, ça a permis d'accéder au pouvoir et d'imposer un programme de transformation au moins quelques années.
Lettre de Jean-Luc Mélenchon qui invite les communistes à le rejoindre et notamment demander à Fabien Roussel finalement de n'avoir aucune velléité pour 2022, c'est devenu quoi cette lettre? Ça a eu quel impact chez les communistes?
Il y a eu un impact. J'ai entendu Fabien Roussel qui disait oui, nous allons discuter, il faut voir. Donc,
vous avez commencé à en discuter?
Je sais qu'il y a certains communistes qui sont déjà favorables, qui l'ont dit, comme Marie-Georges Buffet, mais nous, vis-à-vis du PC, on cherche pas très clairement, qui a été quand même notre partenaire sur deux élections précédentes. C'est pour ça que c'est important, et pas seulement.
Avec parfois un succès très relatif.
Oh, bah, écoutez, un succès très relatif. Il y a quand même du succès au présidentiel à devenir la première force, on va dire entre guillemets, de gauche dans ce pays, à reléguer le Parti Socialiste derrière.
Pour les européennes, c'était moins probant.
Oui, mais là, on parle de présidentiel. D'accord. Donc, moi, je trouve que ça a été un progrès continu, et j'espère bien que ça sera jamais 203, et que cette fois-ci, ça nous donnera accès au deuxième tour et à la victoire. Je pense que le Parti Communiste, moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Parce que le Parti communiste a, je veux dire, chevillé au corps l'intérêt, justement, général, l'intérêt de tous ceux qui souffrent dans ce pays, de la politique subie, et que, entre présenter un candidat pour témoigner, pour présenter des idées et soutenir un candidat avec lequel on peut gagner collectivement, je pense qu'ils feront bon, je crois.
Éric Coquerel, pour jouer collectif ce matin sur France Inter. Merci beaucoup d'être venu le dire sur France Inter, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci et bonne journée. Il est 9h20 sur Inter.